C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Aljou. Guillermo Moïse. Tout à l'heure, Tanguy Passureau. Et notre invitée Marina Carrère d'Ambiance.
Bravo madame.
Bravo madame.
Quel accueil.
Si, bravo madame, je sais pas si c'est poli, mais.
Ah, moi je sais pas, moi
Marina, c'est notre Marina. Bon, on se sent tellement proche de vous, Marina. Ravi en tout cas de vous accueillir.
Merci beaucoup.
Ravi de vous accueillir, ravi de vous avoir lu aussi. Vous publiez votre deuxième roman aux éditions Anne Carrière. Vous êtes fidèle d'ailleurs, c'était la même édition pour le premier livre qui s'appelait Une femme blessée. Ouais. Une femme entre deux mondes. D'ailleurs, pour faire l'enchaînement entre les deux livres, ça aurait pu aussi s'appeler Deux femmes blessées. Pour, ça aurait été un peu Femme blessée tome 2, mais...
Oui, si ce n'est qu'on ne sait pas d'emblée que les deux sont blessés.
Ouais.
Ça apparaît au fur et à mesure,
oui,
au départ. A priori, il y en a une qui va très bien.
Au mi-temps du livre.
Alors justement...
Mais on soupçonne quand même que celle qui semble aller très bien a quelque chose.
Pour avoir cette sensibilité féminine,
pour avoir cette... Oui, mais pour avoir ce regard, cette sensibilité, pour être dans cette préoccupation, on se dit qu'elle va sans doute aussi... découvrir des choses et aller un peu moins bien pour aller mieux.
Dis pas trop.
Voilà, on va surtout expliquer que c'est l'histoire donc d'une romancière, comme par hasard, qui a parlé d'une femme blessée dans son roman. Comme par hasard, qui va en visite dans une prison.
Qui a fini la promo de son bouquin et qui se voit appelé pour faire une intervention dans
un
milieu carcéral.
Voilà. Ouais. Dans un club de lecture, dans une prison féminine.
Nagui, pour tout de suite les choses au clair, ça n'est pas autobiographique. La seule chose qui soit vraie, c'est le premier chapitre. C'est vrai que
donc c'est ce que je viens de dire.
Oui, non, mais comme par hasard, le reste. J'ai arrêté
les comme par hasard. Je dis simplement que vous êtes allé jusqu'à faire des rencontres en prison ou des clubs de lecture, je sais pas comment il faut appeler ça.
C'est des ateliers, ils ont des ateliers.
Ils ont un club de lecture à la prison des femmes où les femmes lisent d'abord les livres et ensuite elles échangent et elles invitent l'auteur. Et c'est une rencontre qui est fascinante.
Alors après, oui,
tous les auteurs qui se rendent en prison ont rencontré des prisonniers ou des prisonnières, on dit comme ça,
des détenus. Ouais, voilà,
sont des expériences très très intenses. Je pense à René Frégny qui animait un atelier carrément.
Moi, c'était ma rencontre la plus forte, honnêtement.
Voilà. Ouais. Alors justement. Ouais, oui. Comme par hasard, l'héroïne, en tout cas, Valérie, reçoit une lettre, alors plusieurs demandes de livres dédicacés et autres, mais une lettre particulière d'une détenue qui était partie les larmes aux yeux, sans pouvoir soutenir plus longtemps cette rencontre. Elle se sentait plus touchée, on va dire, par un passage lu par l'auteur en prison. Et de là va naître une relation épistolaire. Ouais. Il va y avoir on va apprendre la vie de cette romancière. Elle a une vie. Alors là, on est totalement dans la fiction parce qu'elle a deux enfants, alors que vous, dans la vie, vous en avez trois. Donc ça n'a rien à voir.
Merci pour cette précision.
Ça n'a rien à voir.
Si au cas où les gens oublient.
Il a des dossiers
pour préciser.
Elle est divorcée.
Rien à voir.
Comme par hasard.
Elle a rencontré ici même, à la maison de la radio, lors d'une signature. C'est à la maison de Radio France. Elle a rencontré un auteur, un autre auteur baroudeur, avec qui se noue une nouvelle histoire d'amour. Mais il pète un câble, de temps en temps, sans qu'on sache pourquoi. Ça commence dans un avion pour rien.
Pas très gentil. Hein.
Pour une histoire de place. C'est ça. Mais le bonhomme qu'on n'a pas envie d'avoir à côté de soi en disant mais c'est pas celui-là que j'aime, c'est pas celui qui parle mal à une hôtesse de l'air ou qui est odieux en public. Et ce qui doit faire peur, c'est que quelques heures, minutes ou une nuit après, bing, il revient tout à fait normal.
Bonjour,
comme
ma
si,
chérie.
Comme,
comment
si, vas-tu, voilà, comme si rien ne s'était passé, ce qui est assez troublant.
Oui. Inquiétant.
Et elle va vivre cette situation comme finalement elle a toujours vécu sa vie en étant en allant de principe, c'est-à-dire il faut se marier, je me marie, je dois faire mes études, je fais mes études, j'ai des enfants, je dois me comporter comme ça avec un homme, je me comporte comme ça. Elle accepte beaucoup de choses en ayant finalement beaucoup de doutes sur elle, sur la place qu'elle a, sur son amour propre, sur le regard que les autres ont d'elle. Et justement, le regard des autres, c'est aussi l'un des points communs qu'il y a entre ces deux femmes qui vont entretenir cette relation d'abord par écrit, puis par visite.
Oui, parce qu'en fait, ces deux femmes, on a toujours l'impression que les murs, c'est une vraie... Les murs d'une prison, c'est effectivement une barrière, mais l'enfermement, il est du côté des deux femmes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est enfermée avec des barreaux et l'autre qui est enfermée dans une histoire.
Qu'elle ne
maîtrise pas, qu'elle ne comprend pas. Effectivement, c'est un peu, cet homme, c'est un peu le révélateur, cet homme qui se manifeste comme un homme par moments violent, par moments désagréable et méprisant, qui lui fait du mal. Et
qu'elle accepte, qui l'humilie, qui l'écrase, notamment dans la confiance qu'elle peut avoir en elle.
Et c'est là où elle se remet, enfin où elle se rend compte qu'elle vit sur quelque chose qui est mensonger, qui n'est pas la réalité, qu'elle ne comprend pas, mais qu'il faudrait qu'elle comprenne, parce que on peut déraper, on peut accepter des choses qui sont extrêmement violentes dans ce cas-là. Mais beaucoup de femmes qui sont battues ou qui acceptent des violences, souvent les acceptent parce qu'elles ont quelque chose qui a été blessé très tôt dans leur vie et qui fait qu'elles n'ont pas la capacité de se défendre et de se dire non, on n'a pas le droit de me faire ça à moi. Et c'est effectivement, c'est là où elle se rend compte, cette femme-là, qu'elle vit sur quelque chose qui n'est pas possible, qui est un mensonge. Elle a souvent l'impression d'usurper une place, d'usurper sa situation.
Comme si elle méritait le malheur aussi, quelque part.
Comme si elle méritait le malheur, comme si elle avait quelque chose à payer. Ouais. Et c'est là où, en avançant, ces deux femmes qui vont s'écrire, au départ, c'est un peu la femme libre qui se dit, je vais donner de mon temps, du bonheur que j'ai reçu, je peux en rendre un petit peu, alors qu'elle le méritait tout à fait. Mais enfin, elle se dit, je vais aider une femme en prison. Et puis en fait, c'est plus l'autre au début qui va l'aider à se découvrir, à se révéler, à oser penser certaines choses et à aller chercher en elle-même.
La plus libre n'est pas celle qu'on croit, forcément.
Exactement.
Et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre, c'est que chacune va aider l'autre sans savoir quelle est la blessure que l'autre a. C'est-à-dire, celle qui est en liberté ne sait pas pourquoi Nathalie est détenue ou quelle est la cause ou l'acte gravissime qu'elle a fait, puisqu'elle est détenue pour plusieurs années. Et celle qui est en prison ne sait pas pourquoi et se rend bien compte qu'il y a quelques mensonges ou quelque chose caché dans les écrits.
Oui,
c'est là où on ne lâche plus le bouquin.
Oui,
voilà.
Parce que le premier signe, c'est ça, de ce personnage d'écrivaine, c'est qu'elle n'est pas capable de dire à l'extérieur que sa relation avec Olivier est compliquée. Elle parle de lui comme d'un homme merveilleux et magnifique, et à partir du moment où
elle n'ose pas le dire...
C'est humiliant. C'est humiliant, oui, absolument.
De ne pas oser se défendre, de ne pas oser quitter dans ce cas-là un homme qui vous blesse, c'est très humiliant, c'est très fragilisant.
Et Albert a raison. Il y a deux livres en un, mais je le dis plutôt comme un compliment, c'est-à-dire qu'il y a une accélération, pratiquement pile à la moitié d'ailleurs, où il y a une accélération aussi bien dans le style, dans l'écriture, oui, que dans ce qui se passe.
Le début, c'est long. On est dans une certaine normalité au début. On se dit, même à la limite, que ça va déboucher sur des bons sentiments.
Et en fait, et c'est très agréable à lire, et c'est très fluide.
Il y a des bons sentiments, mais c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus subtil que ça. Et là, ça devient vraiment passionnant. Moi, j'ai pas lâché le bouquin, je l'ai lu d'une traite, du coup.
Pareil.
Ce qui m'arrive pas toujours. Et là, j'étais pris. Là, on est pris en otage. On est prisonnier du bouquin.
Mais je maîtrise pas. Je sais pas ce qui va se passer au fur et à mesure où j'écris. Donc,
c'est pas possible.
Dingue, je vous jure, je suis partie de ces femmes donc que j'avais rencontrées, qui m'ont marquée. Je me suis dit, si j'écris un deuxième livre, j'écrirai sur ces femmes-là. Mm-hmm. Point. Donc je suis partie en racontant le premier chapitre qui est mon histoire de cette rencontre en prison. Et effectivement, il y a plusieurs femmes ensuite qui m'ont réécrit, mais j'ai évidemment pas reproduit une de ces lettres-là. Et voilà, donc je me suis simplement dit, une femme va m'écrire. Et ça s'est arrêté là ensuite.
L'auteur peut se faire embarquer par ses...
Ah mais totalement, je n'ai rien prévu de ce qui arrive au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des choses même que je veux écrire et... Très clairement, mes doigts écrivent autre chose. J'ai une copine comme ça, sculpteur. Non, mais je suis pas folle. Hein. J'ai une copine sculpteur.
Un petit peu quand même.
Je suis un peu folle. Je suis d'accord.
Déjà d'être venue ici.
J'ai une copine sculpteur qui commence une sculpture avec une attention particulière et ses doigts font autre chose. Et ça, c'est vraiment ça.
C'est-à-dire que j'écris. C'est comme Daniel Morin. Hein,
j'écris avec des idées et en fait, ça se passe pas comme je veux. Et notamment quand j'ai découvert que cette femme qui était enfermée, Nathalie, avait été psychanalyste, je ne sais pas d'où c'est sorti. Je vous jure, quand j'ai commencé à écrire le matin ce chapitre-là, c'était pas du tout prévu comme ça. C'est apparu comme ça. C'est très curieux comme impression.
Alors il y a aussi une situation, et on va en parler tout à l'heure avec Katia Kermoal, une thérapeute, Katia Kermoal est une thérapeute, mais il y a une forme de thérapie qui s'appelle EMDR qui apparaît dans le livre, que je ne connaissais absolument pas, et qui est une suggestion faite par le psychanalyste Alain Barbeau, je ne sais plus comment il s'appelle dans le livre.
Je lui ai donné une seule fois un nom.
Bardot, en tout cas.
On va l'appeler Alain.
On va l'appeler Alain.
On va l'appeler Alain.
elle va voir un psy, mmh. avoir un psy, et lui lui dit, ben, il faudrait que vous alliez, vous testiez cette thérapie, parce qu'elle va permettre d'aller chercher une blessure profonde que vous pouvez avoir dans votre mémoire, parce que sa mémoire ne commençait qu'à 5-6 ans. Ce qui, je pense, si on fait le tour de la table, ce qui doit être la mémoire de chacun, chacune, parce que si on fait le tri entre ce que nous ont raconté nos parents, nos grands-parents, entre les photos.
C'est culturel, la mémoire, ça se construit.
Qui nous permet aussi, les photos qui nous permettent de nous souvenir de certaines choses. Si on cherche vraiment le premier souvenir que l'on ait de notre vie seul, sans éléments extérieurs, je pense pas qu'on puisse remonter à plus loin que 5-6 ans.
Ça faudrait demander à un spécialiste, mais souvent.
On lui demandera tout à l'heure, mais.
Mais elle s'en souvient pas.
Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, bon, je pense que le psychiatre avait décelé d'autres failles qui.
Je parle de sa thérapie parce que c'est une bascule dans le livre et qu'elle est extrêmement importante.
Et qui est effectivement une technique qui est.
Tu veux te caresser les seins, Guillermo, pendant que Marina parle, n'hésite pas.
Qui est totalement fascinante et qui effectivement a été, je parle sous le contrôle de la spécialiste, a été révélée vraiment sur les vétérans qui revenaient avec des stress post-traumatiques.
Les guerres du Vietnam.
Voilà, absolument. Et qui ensuite s'est développée en France et qui est une thérapie tout à fait reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé pour les victimes d'inceste, de viol, aujourd'hui les victimes d'attentats. Donc tous les gens qui ont eu des traumatismes avec amnésie ou pas, c'est-à-dire avec le souvenir enfoui ou pas et conscient ou pas, mais qui ne peuvent pas vivre, qui n'arrivent pas à vivre avec le traumatisme qu'ils ont subi.
C'est-à-dire que des enfants peuvent avoir subi un inceste, une agression et ce crime, ne pas s'en souvenir.
Bien sûr, c'est tellement violent qu'ils l'ont occulté, oui. Et ça ressort à l'occasion d'un accouchement, à l'occasion de la ménopause, à l'occasion d'événements souvent forts dans la vie.
D'accord.
Où les choses, bon, c'est pas le souvenir qui ressort, mais c'est un mal-être tellement profond
qu'on
ne sait pas d'où il vient. Et cette technique permet effectivement de faire ressortir, je dis ça vulgairement, hein, c'est évidemment plus scientifique que ça, mais permet
enfouie.
De faire ressortir une blessure enfouie qui a été stockée à un endroit où elle n'est pas supportable.
On va en parler tout à l'heure. En tout cas, ces deux femmes blessées, ça c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure de ce livre, en tout cas, vont rentrer dans une relation forte, humaine, dense, et les enfants aussi ont un rôle magique et magistral. C'est eux qui ont le plus beau rôle dans le livre. C'est eux qui font les vannes, c'est eux qui ont la parole la plus sage, entre guillemets, et la maman d'ailleurs est très fière des enfants.
Ce qui n'est pas du tout mon cas.
Non, parce que vous en avez trois, et là il y en a deux.
Voilà,
c'est ça. J'espère, Jean-Dominique Besnéard, que vous avez bien compris maintenant pourquoi nous avions invité l'excellente Marina Cardancos.
Salut Nagui, salut la bande de grippés du bulbe. Dis donc, j'ai pas l'impression que les vacances vous aient spécialement réussi, question aération du cerveau. Hein. Surtout, c'est fou que vous avez tous l'air enchantés de me revoir. C'est vrai que je suis que le cousin de Dominique Besnéard, les coachs. L'ex-coach des stars. Bien sûr, si j'avais ces relations, j'aurais
pas
droit...
dire agence, c'est plus facile à dire que coach.
Agence, c'est difficile aussi à dire. Hein. Enfin, moi, je me comprends de toute façon. Hein. Si j'avais ces relations, j'aurais droit à vos Salam Alek, au cirage de Godache. Mais je ne suis que l'orthophoniste du Chopin. Bon, c'est pas tout. Nagui, vous m'avez demandé donc pourquoi nous recevons Marina Carré-Bancoche.
Faites un effort.
Alors, bien sûr, vous imaginez certainement que je vais surenchérir sur vos félicitations, sur les éloges dont vous avez enchanté dans votre laïus initial. Bien sûr, et ça, je peux le dire parce que je l'ai lu sans pouvoir le lâcher une seconde, comme Albert Algou, mon ami, tout ça.
J'ai pas pu lâcher votre roman, Marina. D'ailleurs.
Oui, bon, oh, beaucoup. Une femme entre deux mondes, entre son passé qui ressurgit et le présent angoissant, entre la prison et l'introspection, c'est vraiment sans sas. Quel suspense. On pourrait donc supposer que Nagui vous a invité pour en causer. En fait, je suis désolé de voir Marina, mais si Nagui vous a invité, c'est pas en tant que romancière, c'est en tant que médecin, tout bib. Ce matin, en entrant dans le bureau, une fois de plus, il s'est rué sur JNB, le rédac-chef. Je me sens pas bien, JNB, appelle un médecin. Tout de suite, maître. J'appelle Michel Chimès. Oh non, pas ce charlatan. Comme animateur télé, mais ok, non. Il assure, mais comme tout bip, c'est hors de question. La dernière fois, pour un panariche, il m'a prescrit des chupots à l'eucalyptus.
Voilà,
j'ai fait une allergie, j'ai failli en crever. Alors, appelle plutôt Marina Carrère-Jancoche. Elle, au moins, elle a un diagnostic plus que je. Fine mouche, comme vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher de demander à Nagui de quel mal il souffrait. Sous le chaud du secret, il m'a dit « J'ai chopé la taratatite. »
une otite, mais il est embruti. Jean Do, la taratatite, une sorte de toc verbal qui consiste, dès qu'une caméra est fixée sur moi, à crier toutes les 30 secondes de façon obsessionnelle, faites du bruit! Bref, Marina, je ne sais pas si l'échographiste que vous êtes peut faire quelque chose pour guérir Nagui, mais l'orthophoniste que je suis va vous demander de lui faire répéter de plus en plus vite la formule qui suit, qui fait partie du traitement de la taratatite.
6 chaises sèches, 12 douches douces.
Allez-y, Nagui, vous répétez.
Montrez-lui
la feuille.
Montrez. D'accord.
Allez-y, okay. Nagui.
6 chaises sèches, 12 douches souches. Ah non. Bon. 6 chaises plus sèches, vite. 12 douches douces.
Bon, merci. Bonne émission.
Merci.
La bande originale. Nagui.
Oh, la tristesse de la situation. C'est vrai, il n'empêche, dans ces
idées. J'ai dit des choses exactes.
Ouais, tu as dit des choses exactes. Notamment sur cette femme entre deux mondes. Parce que les deux mondes, évidemment, c'est la liberté, le monde carcéral. Mais c'est aussi les deux mondes dans lesquels elle-même vit la vérité et le mensonge, finalement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a tous une part cachée que l'on ignore de notre enfance? Vous, la première?
Alors d'abord, on ne parle pas de moi.
Bah si.
Non, c'est vraiment, c'est une fiction, donc on ne parle pas de moi. Non, je ne parle pas de mon enfance, honnêtement. Mais dans
vous en avez déjà parlé de votre enfance.
Oui, mais c'est bien.
Vous en avez déjà parlé de votre enfance. Oui. La femme blessée, c'était pas naïf si vous parliez de cette jeune femme brûlée.
Oui, mais c'est pas mon enfance, ça, c'est mes années de jeune adulte.
Voilà. Et c'était votre sœur d'ailleurs qui vous avait aider à en parler ou qu'il avait évoqué.
Absolument, oui. Non, mais c'est vrai que c'était. Non, c'est vrai que j'avais
pas. Ça vous dérange d'en parler aujourd'hui? Paradoxalement, parce que.
Il aime bien mettre mal à l'aise.
Je pose la question pour respecter justement
que je parlais d'une femme brûlée et que j'ai été brûlée quand j'étais jeune adulte, quand j'ai eu mon accident de voiture. Mais en fait, je me suis pas rendu compte en écrivant une femme blessée que tous les souvenirs que je racontais de la brûlure, des grèves, des bruits, des odeurs, de tout ça, en fait, je l'avais vécu.
Ceux de l'accident que vous avez eu, c'était votre papa qui conduisait, vous étiez avec votre sœur, vous étiez à la place, entre guillemets, du mort. Ouais. Vous avez presque eu un réflexe qui était de vous endormir, mais en tournant le visage par rapport à la vitre, en disant on ne sait jamais, s'il y a un accident comme ça, j'aurais pas la vitre. Ouais, c'est totalement dingue. Et ce qui est totalement dingue, c'est qu'elle avait déjà des cours de médecine très avancés et que vous aviez senti votre ventre se durcir et que vous saviez que vous faisiez une hémorragie interne. Vous étiez presque en train de faire un diagnostic sur vous-même avant de tomber dans le coma.
Ah, ça c'est sûr. Et puis il y avait aussi ma thèse de médecine dans la voiture qui a disparu au passage dans l'accident. Ça, c'était moins grave.
Si je me permets de rappeler, c'est que je ne pense pas que tout le monde est présent cet épisode douloureux de votre vie et que vous êtes toujours dans la blessure.
Oui, mais bon, effectivement, la brûlure, c'est ma sœur qui m'a dit, quand elle a lu le livre, elle m'a dit, mais est-ce que tu te souviens quand même que tu as été brûlée? Et j'ai après coup réalisé que tout ce que je racontais de ces sensations, je les avais vécues, mais je ne m'en suis pas rendu compte en l'écrivant, ce qui est quand même, l'inconscient est quand même un truc intéressant. Et en l'occurrence, pour répondre à votre question sur l'enfance, je pense qu'on a tous certaines choses de l'enfance, mais qui pour la plupart heureusement ne sont pas graves, et que voilà, malheureusement il y a des gens qui ont vécu des choses très graves dans leur enfance, et que c'est ces personnes-là qui sont les plus effectivement blessées, et c'est celles-là moi qui m'intéresse, parce que c'est ces fêlures-là et ces blessures-là qui m'intéressent.
Au-delà de cette formidable histoire entre ces deux femmes, chacune dans leur monde, mais aussi de cette femme entre deux mondes, est-ce que c'est pas une manière de pousser le lecteur à aussi à s'accepter, à accepter le regard des autres et finalement ne pas se cacher une part de sa vraie vie ou de sa vraie personnalité.
C'est surtout une volonté de dire aux gens que s'ils sont mal, s'ils se sentent pas dans leur vie, s'ils sont en souffrance, il faut aller chercher pourquoi. Parce que la vie peut être fantastique et qu'il faut pas passer à côté de sa vie parce qu'on a été blessé, notamment dans son enfance.
Mais il faut être courageux aussi pour aller chercher le pourquoi.
Oui, mais il y a un moment, on n'a pas le choix. Ce qui fait peur, c'est que tout d'un coup, le personnage décide de soulever le couvercle.
Oui, mais il y a un moment où on n'a pas le choix. Il y a un moment où la douleur peut être telle et la vie tellement insupportable à vivre que c'est ça où on meurt. Hein, donc voilà, quand on voit effectivement, j'ai plus les chiffres en tête, mais que une femme obèse sur deux et beaucoup de femmes alcooliques sont des femmes qui ont été victimes d'inceste dans leur enfance, on se dit que la souffrance est tellement importante que voilà, il y a un moment où il vaut mieux essayer de soulever le couvercle, de souffrir en sachant ce qui s'est passé,
au lieu de continuer
et
à se détruire,
pouvoir avancer et surtout de se comporter bien aussi avec les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reproduisent les blessures sur leurs enfants, sur leurs compagnons. Il vaut mieux par moment accepter ce qui s'est passé et puis avancer.
Vous l'avez fait ce travail individuellement, et là je parle pas à l'auteur, je ne fais pas de parallèle avec le personnage, je parle
je
à
fais un
vous,
travail,
Marina.
Oui.
Ouais.
Tu fais un travail.
Ouais.
Il faudra le finir. Tout commencer comme ça.
Merci. Je suis désolée.
Il est trop con.
Et j'en profite. Je le fais pas souvent, mais j'en profite pour préciser que Andréa Bescon, que nous avions reçu dans cette émission, a lancé une pétition que vous avez rapidement trouvée sur sur internet pour que le délai de prescription de tous les actes de pédophilie et d'inceste soit supprimé, parce que c'est vrai que c'est totalement.
Oui, pas de prescription.
Oui, qu'il n'y ait pas de prescription, pardon. Pour que c'est totalement absurde de se dire qu'un enfant déjà victime d'une agression pédophile, que ce soit dans son environnement familial ou extra-familial, mais on sait que malheureusement c'est très souvent au sein de la famille que les choses se passent, ne puisse pas, une fois qu'il est majeur, une fois qu'il a fait ce travail, porter plainte et peut-être tirer un trait définitif à ce problème.
Je suis tout à fait pour, effectivement. J'ai pas très bien compris pourquoi finalement on avait augmenté ce délai de prescription, mais on l'avait pas effectivement complètement annulé. Parce que
alors que beaucoup de pays l'ont annulé.
Absolument. Et parce qu'il y a cette histoire aussi d'amnésie traumatique et que les souvenirs peuvent revenir très tard, entre 30, 50 ans, et que c'est effectivement dommage parce que la réparation peut être importante, effectivement, parce qu'il y a la reconnaissance quand on va au tribunal. Il y a le fait qu'effectivement, on a vraiment été victime et c'est quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que quand ça revient très tard, les coupables sont souvent déjà morts. Mais malgré tout, c'est une reconnaissance qui est importante. Et c'est vrai que je pense que ça aurait été bien qu'on la supprime complètement.
Et que l'on cesse de dire, aux victimes pourquoi vous avez mis autant de temps à parler, qui est quand même la question la plus ridicule qu'on puisse entendre, surtout en ce moment, dans d'autres histoires qui touchent pas forcément que des mineurs, et se dire qu'on peut occulter des choses. Ça peut prendre aussi
ne pas vouloir le dire.
Il y a une
dame qui a dit: j'ai attendu que mes parents ne soient plus de ce monde parce que je ne voulais pas que ma maman ou mon papa l'entendent. Et donc je voudrais maintenant le dire et porter plainte, mais voilà, prescription.
Et pitié, on parle beaucoup
d'inceste. Or, l'inceste n'est pas du tout un sujet dans le livre.
Parce que cette thérapie dont vous parliez, le MDR, est souvent utilisée pour l'inceste.
Mais ça fait partie des blessures que l'on peut vivre dans l'enfance. Là, en l'occurrence, vous le découvrirez dans le roman de Marina Carrère d'Encausse. Parce qu'au moment où on tourne les pages, je dis: mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Il y a un véritable suspense en même temps, et une dramaturgie extrêmement bien tenue et écrite par Marina Carrère d'Encausse. C'est chez Anne Carrière. On vous encourage encore une fois à lire ce très bon roman. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand vous avez su que Marina venait.
Bien sûr, et Marina, quand je pense à vous, j'entends ça aussi.
Ce qui est toujours difficile, c'est au fond de cracher la matière brute, ce qui devient à la fois, sinon facile, du moins satisfaisant, agréable, passionnant, c'est quand il y a suffisamment de matériaux pour pouvoir limer, polir, monter, agencer.
C'est votre frère Emmanuel Carrère qui explique comment parfois la fiction peut déserter aussi un auteur. Vous déclariez il y a peu de temps: je n'ai ni le talent d'Emmanuel, ni les mêmes raisons d'écrire. Et moi, j'aimerais m'intéresser aux raisons d'écrire, ça me passionne. Je me demande pourquoi un artiste chante, pourquoi un écrivain écrit, pourquoi vous écrivez?
Je pense pour libérer quelque chose. J'ai mis beaucoup de temps, je pense, à comprendre quoi, des choses effectivement, des blessures que j'ai, et je pense que j'ai eu besoin de pas de me dévoiler du tout, mais de me soulager.
Oui. Et pourquoi l'écriture? Pourquoi l'écriture? Parce que c'est vrai.
Mais parce que j'ai toujours écrit.
Vous avez une place, parce que vous voulez trouver votre. Enfin, vous le disiez dans cette interview, vous vouliez trouver votre place dans l'écriture entre Emmanuel, votre frère et votre mère.
Maman. Mais j'ai toujours voulu écrire. J'ai commencé je ne sais combien de romans. J'ai écrit des premiers chapitres de romans, mais depuis que je suis petite, que j'ai bien mis au fond des tiroirs. Et j'étais plus, honnêtement, littéraire qu'autre chose. J'ai pas fait d'études littéraires, et après j'ai pas fait Sciences Po parce qu'il y avait un peu de famille dans cette maison, donc je suis allée ailleurs. Mais finalement, ça m'a rattrapée assez vite, et c'est mon moyen d'expression favori. La lecture, c'est quand même ma passion, donc c'est vraiment ma façon à moi de m'exprimer, de rêver, de penser. Et donc voilà, à un moment, je me suis dit que...
On peut pas échapper à sa famille juste parce qu'on veut pas être assimilé à elle si on a ça en soi.
C'est pas assimilé, c'était comparé surtout. C'est qu'effectivement, l'enjeu était lourd, quoi. C'est pour ça, je veux dire, j'aurais eu un frère qui écrivait moyennement, j'aurais eu beaucoup moins de soucis. Je veux dire, c'est un des meilleurs écrivains de sa génération. C'est compliqué ensuite d'aller écrire des romans. Par rapport à ma mère, c'était relativement facile. Elle est historienne. Mmh. C'est différent par rapport à
spécialiste de la Russie et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Voilà. C'est le titre qui...
Très grande dame, mais qui est vraiment, c'est une spécialiste historienne. Donc c'était, on comparait moins par rapport à mon frère, c'est horrible, quoi. Mais en même temps, il est très bienveillant avec moi.
Et est-ce qu'ils sont, voilà, vos relecteurs émérites
Ils ne sont pas relecteurs, je ne le montre à personne avant qu'il soit terminé, y compris à mon éditrice. Je ne le montre absolument à personne. Je donne le roman terminé.
Il y a un moment, vous le montrez à l'éditeur.
Ça, l'éditeur.
Une fois qu'il est terminé, dernière page, je ne montre rien avant.
C'est fou.
J'ose pas, parce que je pense parce que je me dis, on va me dire que c'est nul.
Non.
Donc je vais... Si,
Mais non, mais vous pouvez pas... Non,
mais Nagui, si, je suis désolée.
Mais alors, qu'est-ce que ça change qu'on vous le dise au milieu ou à la fin?
Parce que je préfère écrire, je préfère rendre le roman. Ouais. Je veux aller au bout de ce que je fais.
Ah oui, parce qu'au milieu, vous risquez d'être influencé par les
critiques. Ah ben si on dit c'est nul, j'arrête. Si mon éditeur me dit au milieu, c'est pas possible, c'est pas un livre, j'arrête.
Mais est-ce qu'il vous dirait ça, sincèrement?
Elle est délicate, donc elle fera autrement. Mais
Tu veux pas faire du coloriage, plutôt?
C'est un peu ça.
Ça vous est déjà arrivé avec un ouvrage fini que les gens n'ont pas aimé?
C'est que le deuxième roman, parce qu'avant, c'était...
Une dizaine, une bonne
dizaine. Non, mais avant, c'était des essais, que je faisais des essais médicaux, mais les essais médicaux...
Sur l'alcool, ça va, sur l'alcool, ça passe.
Non, mais il y avait sur la génétique, sur l'éthique, mais c'est pas critiquable, les essais... Enfin, je veux dire, c'est des choses... C'est comme un très long article, on va pas vous dire c'est nul. C'est référencé, ça peut être casse-pied, tout ça, mais c'est sérieux. Un roman, on peut vous dire, oui, c'est pas écrit, c'est pas une histoire, c'est pas des personnages. On peut vous dire tout ça. Et moi, pendant tout le temps où je l'écris, je me dis ça. Donc, je remets le tout une fois terminé. C'est pareil pour mon frère et en l'occurrence, et ma mère. Je leur donne une fois que c'est terminé.
Et qu'est-ce qui vous influence en matière de littérature? Parce que écrire, c'est une chose. Choisir le genre dans lequel on décide de s'exprimer. Alors, on parle de la forme romanesque, mais
je suis avant tout une fan de polar, d'abord. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs de polar qui me disent, mais tu devrais en écrire un jour parce que tu as une construction de roman qui ressemble à des polars.
Absolument, pas loin.
Donc voilà, je pense qu'un jour je le ferai.
On est pas loin, parce qu'il y a un côté, à chaque page, une nouvelle révélation arrive derrière. Donc on est dans cette
structure-là. Je pense que j'en ferai un jour. Mais sinon, non, moi je suis plus dans le roman, les romans japonais, les romans anglais, des romans d'abord assez simples parce que bon, j'ai très peu de culture classique.
On sent qu'il y a un petit manque là.
Ah bah oui, honnêtement, Proust, j'y suis jamais arrivé. Balzac, j'ai du mal à la
connaître. Comme par hasard.
Comme par hasard.
Pour Nagui, ça suffit. Non, j'ai une vraie, effectivement, faille dans ce domaine-là. Et moi, j'ai besoin de livres qui montrent... J'ai besoin de lire un livre comme je vois un film. J'ai besoin de lire des images.
Ouais, d'accord. Voilà. Pour revenir quelque chose de réaliste qui campe un personnage dans une société, dans une temporalité.
Exactement.
Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Leïla sur ce qui vous pousse à écrire, le plaisir de l'écriture, si vous pensez que vous êtes une usurpatrice de la plume, c'est quand même très particulier.
C'est une souffrance totale d'écrire.
Vous avez peur d'être jugé, il n'y a pas de plaisir dans l'écriture.
Ah non, je souffre en écrivant.
Le plaisir, c'est à la fin.
Ah ouais, ah ouais.
Quand on est lu.
Ah ouais, je souffre. Hein. Franchement, c'est une épreuve.
Je pense que beaucoup d'écrivains souffrent en écrivant ça, sinon ça voudrait dire qu'ils seraient trop...
Non, beaucoup de lecteurs souffrent.
C'est les deux, c'est-à-dire que tu peux aussi imposer ta souffrance aux autres, c'est le partage. Ah oui. Mais je ne sais pas, par exemple, Emmanuel Carrère, est-ce qu'il, lui, souffre aussi dans l'écriture? Est-ce que vous avez ce... Parce qu'il y a peut-être un partage là-dedans.
On n'en a jamais parlé de ça. Il me parle de mes livres. J'ai évidemment beaucoup parlé des siens. On parle de ce que nos livres révèlent. Ouais, on parle de la lecture. Mais on a très peu parlé de l'écriture. La seule chose que je lui avais demandé, avant d'écrire le premier roman, je lui avais demandé comment on écrivait. J'ai dit, je sais pas comment je fais, je mets des points, je mets des guillemets, comment je fais? Comment je fais? Et il m'a dit, mais tu écris, ça n'a aucune importance, il n'y a pas de technique, il n'y a rien, vas-y, lâche-toi.
Et d'ailleurs, vous l'écrivez sur ordinateur ou papier-crayon?
Non, ordinateur.
Ordinateur. Ça s'appelle Une femme entre deux mondes. Nous allons parler de cette thérapie tout à l'heure, EMDR, avec Katia Kermoal, thérapeute dans ce domaine. Mais d'abord, une autre thérapie, c'est le rire, c'est l'humeur, c'est Guillermo Gris.
Ah oui. Bonjour les amis.
Salut.
Ça va toi?
Alors j'ai beaucoup pensé au suicide pendant cette semaine de vacances. Ah bon, l'équipe, t'as manqué tant que ça?
Ouais, ouais.
Lol. Et vous allez me dire, ben non, tu te suicides pas, tu fais partie de la team maintenant. C'est pas parce que t'as eu un petit passage à vide d'un an dans cette émission que tu as démissionné par mort violente. T'inquiète pas, tu vas finir par réécrire une bonne chronique à l'occasion. Prends un co-auteur ou bêtement du speed. T'as pas le numéro du dealer de Leïla?
Ça va pas.
Pourquoi moi?
Pourquoi? Alors mais bon.
Parce que moi je l'ai défendu. Ça sur la drogue.
Exactement. Voilà, c'est complexe. Ce qu'il y a, c'est que l'automne en soi, déjà, ça donne envie de crever dans un puits de pétrole. Mais l'automne loin de chez moi, putain, les gens me font toujours, oui, attends, je te rappelle que t'as la chance d'être à Paris, quoi, putain, Paris, le PSG, quoi, s'il te plaît, la ville lumière. Bah oui. La Ville Lumière, ok, sauf que là on est en novembre, tu vois, la Ville Lumière c'est jusqu'à 16h30, après c'est le Mordor, hein, comme à Düsseldorf. Et puis Paris très bien, mais moi c'est pas que je vis dans le Marais ou à Pigalle ou à Répu. Hein.
Pourquoi non. tu me regardes
Moi je vis pas à Répu, non, moi je vis à Coque de Téléphone. Il y a 60 magasins de Coque de Téléphone dans ma ville. Là, j'en suis arrivé qu'on me vole la mienne juste pour pouvoir me faire un copain dans le quartier. Quoi. C'est vrai, il y a un petit bar sympa au bas de mon immeuble, hein. Les gens sont chouettes et tout, mais là j'ai fait le tour de leurs anecdotes sur la guerre en Tchétchénie. Il est marrant au velours, mais il est marrant en deux secondes. Quoi. Et moi je reviens de Syrie que des lopettes, et moi j'ai perdu deux doigts dans un kidnapping, et moi je rêve encore de l'odeur du sang, pas vous les gars. Et on a sympathisé et tout. Mais bon, je leur dis que je connais pas la guerre, mais que je bosse avec Daniel Morin. Avec niveau hygiène, on n'est pas loin du charnier. Mais je sens bien qu'ils m'écoutent que d'une oreille. Les soldats, c'est une caste à part. Pas vrai, Maréchal?
Alors, affirmatif.
On est bien d'accord. Non, vraiment, travailler loin de chez soi, déraciner, c'est dur, quoi. J'en parlais encore récemment avec Neymar, qui trouvait que je manquais un peu de caractère, évidemment. Mais bon, évidemment, c'est facile pour Neymar. Il est sociable. Moi, socialement, j'ai une vie de moissonneuse-batteuse. Quand vraiment, ce week-end, après le spectacle, je me dis, allez, soyons fous, je vais aller manger seul au restaurant. Yeah, seul au resto, comme un veuf. Et en même temps, comme un veuf. En même temps, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai peut-être personne à qui parler, mais je suis pas à l'abri d'une bonne cuisson. Hein, ça va, au pire, je fais comme un copain avec le bar de ligne. Yeah. Alors, j'arrive devant le resto et tout, en chemise et tout. Hein. Putain, le videur, il me refuse l'entrée d'un resto. Putain, c'est quoi cette ville? À Bruxelles, t'arrives en chemise dans un resto, tu deviens actionnaire, quoi, vraiment. Et du coup, voilà, j'ai fini seul au McDo de la gare de l'Est à 23h, habillé pour coucher, à manger des cheeseburgers froids. Le cheddar, je vous jure, c'était de la bakélite. Franchement, il y avait moyen de jouer aux dames dessus, vraiment. Sur la table du McDo, il y avait des restes de famille qui avaient mangé en 2001. Quoi. Il restait encore des poils du kiki du petit dernier dans le ketchup séché. C'était glauque, on aurait dit l'historique internet de Nagui, quoi, vraiment.
Salaud.
C'est vrai, les frères Dardenne ont entendu parler de cette histoire, ils veulent faire un documentaire sur ma vie, quoi, vraiment. Ma ville, elle me manque, quoi. Bruxelles, c'est la classe, vraiment, ouais. Critique parce que ça sent la pisse, ok. Mais en attendant, c'est quand même à Bruxelles que le gouvernement catalan s'est installé, quoi, c'est vrai. Alors que tout le monde fait un foin de Barcelone, parce que Barcelone ceci, Barcelone c'est ça, mais ils sont tous à Bruxelles, c'est vrai ou pas? Moi j'ai le mal du pays. J'ai plus goût à rien. Tu me mets Penelope Cruz à poil devant moi, je regarde Secret d'Histoire, quoi, vraiment. J'ai plus de libido, je suis à deux doigts de mettre mon sgeg sur le bon coin, vraiment. J'arrive même plus à me masturber, mon sang il me fait, ah non, c'est trop triste. Moi je me déplace pas dans les conditions pareilles, vraiment, c'est vrai. Sérieux, je me donne 3 semaines pour arrêter ma carrière et rentrer chez moi, mais vraiment. Et là les auditeurs d'Inter qui font, mais pourquoi toujours remettre au lendemain? Fonce, Guillermo, fonce. Non, mais c'est vrai, à quoi bon tout ça? Ce qui m'a aidé, c'est que je viens de lire Homo Deus de Yuval Noah Harari, qui est un peu à la joie de vivre ce que Radiohead est à la joie de chanter. Omar Sy l'a lu, depuis il traîne avec Michel Houellebecq. Donc dans ce livre, et par ailleurs formidable, Harari écrit: l'univers ne signifie rien. Au cours de notre séjour d'une brièveté infinitésimale sur notre petit grain de planète, nous nous tourmentons, nous pavanons de ci, de là, et puis on n'entend plus parler de nous. Merci Yuval. Ça doit être chouette de passer un réveillon avec toi. Vraiment. C'est quoi encore le numéro de votre dealer, Leïla?
Bonne émission, les amis.
Bravo. France Inter,
Nagui, la bande originale. Une femme entre deux mondes, le nouveau roman, le deuxième, j'ai envie de dire deuxième parce qu'il est évident qu'il y en aura d'autres, hein. C'est pas le second, c'est le deuxième roman de Marina Carrère-Dancos. On va évoquer quelques années de votre vie, de votre carrière et savoir ce que vous écoutiez comme musique. Par exemple, lorsque vous avez passé votre bac à l'âge de 16 ans, vous écoutiez...
La bohème, la bohème, ça voulait dire... On est heureux.
À 16 ans, on écoute la bohème ?
Ben moi, oui. 16 ans et ma première année de médecine aussi. C'est vraiment un souvenir. J'ai préparé l'internat aussi avec cette musique. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, c'est pas très très gay.
Non.
C'est pas fun, on peut
non,
pas dire.
C'est clair.
Et je sais pas. Ouais,
ça rejoint un peu l'auteur de Guillermo. Il s'appelle comment déjà ton...
Yoann Nona Harry, qui avait fait Sapiens. Ouais.
Ah d'accord, ok,
c'est le suivant. En fait.
Et c'était pas tout Aznavour, c'était vraiment la bohème. Je peux pas vous dire pourquoi, c'est un truc qui a tourné en boucle pendant ces deux années.
Vous étiez particulièrement précoce, alors on a dit le bac à 16 ans. Aznavour à 16 ans.
Ok, tu sors d'autres choses.
Et vous avez appris pareil à lire très tôt. Enfin, vous avez tout de suite été.
Non, pas du tout. J'y suis pour rien, ça, en fait. C'est pour ça que j'ai passé mon bac à 16 ans.
C'est sa maman qui a 5 ans, c'est ça?
Voilà, c'est pour ça que j'ai sauté une classe parce que je savais lire en rentrant au CP. Parce qu'elle m'a appris à lire à 5 ans. Pareil, elle a appris à lire à mon frère à 5 ans. Et elle nous a appris à lire avec une méthode de lecture rapide, ce qui est bien pratique. Mais c'est pour ça qu'en fait on a sauté une classe et qu'on a tous les deux passé notre bac à 16 ans.
C'est surtout pour plus lire des histoires aux enfants en disant maintenant va lire ton histoire.
Non, pardon, non, c'est pas comme ça. Je répéterai, c'est pas bien.
Bien de répéter non plus.
En tout cas, elle vous a élevé dans un rapport à l'école qui est assez étonnant.
À Libre.
Ouais.
Libre, ça c'est vrai. Mais j'ai fait pareil ensuite, j'ai reproduit ça avec mes enfants. On avait le droit de sécher autant qu'on voulait.
Ah bon?
Ouais, et j'ai fait ça aussi avec mes enfants, et je trouve ça très bien. Du moment qu'on passait d'une année sur l'autre, et qu'on mentait pas, parce que c'est vrai que le genre, je suis plié en deux, je suis malade, etc. J'ai, à un moment, j'ai dit à mes enfants, arrêtez de me raconter des histoires, vous avez pas envie d'y aller, dites-le moi, je vous fais un mot. Mais je trouve que c'est formidable parce que c'est le seul moment de la vie où on peut sécher. Après, quand on est grand et qu'on est au boulot, on peut pas. Le matin, on a envie de faire la grasse matinée, on peut pas. Et c'est une liberté que je trouvais, moi, fantastique.
Mais est-ce que c'est quand même une liberté qui est soumise à un environnement familial et social, j'imagine, non? Parce qu'il faut quand même pouvoir avoir un coup de main à la maison, ou parce que si on sèche, il y a des heures de cours, si on n'est pas face au prof, c'est compliqué,
ben non?
Non,
mais c'est vrai que j'ai pas de souvenir qu'elle nous ait beaucoup aidé à travailler. On travaillait beaucoup tout seul.
Vous étiez déjà bons élèves.
En revanche, l'été, non, moi j'étais très mauvais élève. Ah bon, en revanche, l'été, on faisait les carnets de vacances, ça c'était insupportable.
Mais est-ce que ça fait grandir plus vite que de jouer cette carte de la vérité, de la responsabilité?
Oui, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est un truc. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté. J'en ai beaucoup abusé d'ailleurs.
Et comme votre héroïne dans votre roman, elle dort avec ses enfants. Elle fait des grasses maths, en tout cas, avec les enfants qui rentrent dans le lit.
Oui, vous avez jamais fait ça?
Oui, mais c'était pas ses enfants.
Oh mon Dieu.
Bien.
Alors je vais vous dire la vérité.
Ça arrive,
ma première fille, je trouvais absolument génial la notion de aller on traîne un peu ensemble au lit, ainsi de suite. Et après je me suis interdit.
Ah ouais.
C'est-à-dire je me suis dit il faut que chacun ait son univers. Je respecte la chambre de mes enfants. Mes enfants doivent respecter ma chambre. Et il y a pas de grasse mat avec. On dort tous ensemble.
Ouais, je m'interdis pas grand-chose, donc je sais pas.
Je suis assez étonnée. Ouais, c'est marrant. C'est toujours un rapport très très libre en fait. C'est
une
ligne de conduite. En fait.
Ma mère qui nous a, qui paraît comme ça, quelqu'un de très respectable, sérieux et parfois pour certains rigide. Elle a un côté très très fantasque et très libre, et elle nous a élevés effectivement avec cette liberté-là.
Moi, j'ai un reproche à faire à Marina Carrère d'Encausse, parce que elle, vous nous racontez là ce que vous faites, mais vous faites aussi et vous essayez de faire ce que vous dites. C'est un gros 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 avantage, et sauf une fois.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Bah, à 8 ans, vous avez dit que vous allez découvrir le vaccin contre le cancer.
Ouais, j'ai pas fait.
Et voilà. Non. Et ça, c'est un gros reproche que je voulais faire.
Sauf que ça vient de la lecture, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, ça venait de mes lectures d'Archibald Joseph Cronin, qui est un auteur que j'adore, qui racontait l'histoire de médecins de campagne, de médecins des mines, des trucs comme ça. C'était extraordinaire. Et j'avais, à cette époque-là, j'ai eu envie d'être médecin pour lui.
Donc il va falloir trouver ce vaccin, s'il vous plaît, retourner à
votre problème, vous ne finissez pas les choses.
Ouais, c'est ça. Je suis d'accord.
En 1992, vous écoutiez Jean-Jacques Goldman. On peut sentir dans sa voix une forme de blessure aussi, un tout petit peu.
Un petit peu, oui. Ouais.
On peut sentir. Mais il a des chansons absolument remarquables, ouais. Très très bien écrites, que ce soit musicalement ou les textes, on passe trop souvent à côté de tous les sens et doubles sens qu'il y met. En 92, c'est la rencontre avec l'homme du jacuzzi.
C'est ça. Je reprécise que je n'étais pas dans le jacuzzi.
Non. Vous aviez bien compris que c'était un danger d'être avec Micha Simès dans un jacuzzi. Mais en fait, il vous parle parce que personne ne vous parle.
Non, je suis tellement timide que je parle à personne, donc ça c'est plus compliqué. Mais après ça, on n'était pas beaucoup de médecins journalistes, puisque effectivement c'était un voyage de presse, et on était à cette époque-là peu de médecins journalistes, donc on s'est retrouvés en fait à quelques-uns que je connaissais pas. Mais du coup, voilà, c'est vrai que Michel est venu à moi et c'était bien gentil.
Oui, et votre cursus, même si c'était pas les mêmes années, vous êtes passé par les mêmes endroits.
On était à la fac en même temps, et Michel est très vexé effectivement que j'ai jamais repéré à la bibliothèque de Necker, et je ne l'ai jamais remarqué. Alors lui il dit mais si elle m'a remarqué, mais non pas du tout.
Et lui, vous avez remarqué.
C'est son drame, c'est que personne ne le remarque.
Et comment en est ce projet tout d'un coup? Comment en est ce projet tout d'un coup d'être ensemble à la télévision pour faire une émission qui dure depuis. Enfin, qu'on a toujours connue en fait.
Mais à partir du moment où on s'est
rencontrés. Et la direction a dit ça marchera pas, mais on va quand même le faire.
du moment où on s'est rencontrés, on s'est vraiment dit d'abord qu'on avait envie d'être amis et qu'on avait envie de bosser ensemble.
Ouais.
Et puis donc au début, en fait, j'ai travaillé sur certaines de ces émissions à l'époque de France 5. Non, c'était avant France 5, c'était.
La 5.
La 5. Et donc il avait une émission là.
La 5. cinquième même.
C'était la cinquième, pas la cinquième. Ouais, qui était produite par Igor Barrère. Et donc là, je l'ai aidé en tant que rédactrice en chef. Et donc j'écrivais des textes, choses comme ça. Donc avant d'arriver à la télévision, en tout cas à l'antenne, j'ai travaillé avec lui à l'écriture. Mais c'est, d'abord, on est devenus amis. Après, on a bossé ensemble.
Et le magazine de la santé, voilà. ça
va faire 20 ans.
Ça fait 20 ans.
Ça va faire 20 ans en janvier.
Et comment vous avez basculé entre le statut de rédactrice en chef, derrière, et maintenant
J'ai été rédactrice en chef également du magazine de la santé, puisqu'on a commencé cette histoire ensemble. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, Michel m'a dit, tu veux pas faire quelques chroniques, donc j'ai fait chroniques où on répondait à des questions, je crois que c'était Minitel à l'époque. Et puis un jour, voilà, ça s'est imposé de... Il m'a dit, attends, c'est... Au fur et à mesure, parce que quand elle a commencé, elle faisait 7 minutes l'émission.
Ouais.
Au fur et à mesure où elle s'est allongée, Michel a trouvé que c'était un peu long de présenter tout seul, et il m'a dit, bah, on va présenter
citons,
ensemble.
Citons aussi Benoît.
Benoît Thévenet.
L'excellent Benoît.
Sans qui rien de tout ça ne serait possible.
Et qu'est-ce qui fait le succès de cette émission, d'après vous?
Je pense que c'est deux choses. C'est à la fois la rigueur médicale, c'est l'éthique. C'est-à-dire que comme on est tous les deux médecins, je pense qu'on fait en permanence attention à ce que des téléspectateurs potentiellement patients ou proches de patients peuvent entendre. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas audibles. Oui, donc on fait toujours attention à ça.
Vous êtes crédible dans le propos que vous tenez, surtout.
Et puis qu'on essaye à chaque fois qu'on peut de s'amuser.
Ouais,
donc le tout ensemble fait qu'on fait passer des discours pas faciles.
On vanne beaucoup, parce qu'on l'aime évidemment, on vanne beaucoup Michel Simès à ce micro, mais c'est vrai, j'ai eu la chance de travailler un tout petit peu avec, pas assez d'ailleurs, mais un tout petit peu avec Marina et trop avec Michel Simès et avec Benoît Thévenet, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il vérifie toujours 25 fois l'information, et le choix des mots, la manière de formuler aussi le propos est toujours très important.
Tu vas t'en inspirer un peu quand même.
Non, je suis pas médecin, je m'en fous, je suis pas tri. J'ai que 120 mots en même temps, je vais le faire avec moi-même.
Tu es maîtrise, par contre.
Et chaque fois, c'est non, ça, on peut pas dire ça comme ça. Et je me dis, mais ça, pardon, excuse-moi, c'est la même phrase, qu'est-ce que tu me fais? Non, parce que là, on comprendrait ça, alors que là, on comprendrait ci.
Très rigoureux.
Et donc, ils sont extrêmement rigoureux. C'est une rigueur de journaliste, mais à laquelle je rajouterais le scientifique.
C'est une rigueur de médecin, de médecin face à un patient. Ça, c'est vrai qu'on fait tellement attention parce qu'il y a des choses qui peuvent être tellement dures à entendre sans qu'on mesure effectivement la portée. Mmh. Et on fait très attention à ça, c'est normal. Mais ça, c'est effectivement l'expérience médicale.
Mais comment vous supportez encore les vannes de Simès sans blague? En plus, c'est toujours les mêmes.
Bon, il y en a plein qui ne font pas rire. Hein.
Ah, d'accord.
Mais dans ce cas, je ne ris pas. Et ça le vexe. Il dit tu vas rire. Je dis mais non, attends, ça ne veut pas rire. Alors, hors de question, je ris. Hein.
Ah oui, c'est ça, faut être son public, hein, Michel Simès.
C'est ça. Le rire forcé, je ne connais pas. Donc ça, c'est juste infaisable.
Bon, on t'embrasse, Michel, si tu es en train de préparer un texto.
Et on embrasse
Benoît. Si. Marina Karadanko signe donc Une femme entre deux mondes chez Anne Carrière. Dans ce roman, il est question de la thérapie EMDR. Bonjour Katia Carmoel, merci de venir à ce micro. Expliquez-nous déjà, EMDR, c'est l'acronyme qui veut dire quoi?
Emmerdement.
Non, en fait, c'est une thérapie
oui.
qui va permettre finalement de dépasser un élément traumatique par un processus de désensibilisation et de retraitement.
J'entends bien, mais EMDR veut dire quelque chose?
C'est Eyes Movement Desensibilisation Reprocessing en anglais.
Ok.
Alors, comme nous sommes en France, j'ai préféré vous donner la version française.
Très bien.
Alors, après ce jargon un peu...
Non, mais ce qui est important, c'est que dans le EMDR, il y a le Eyes Movement. Et en effet, ça, c'est important de jouer avec l'équilibre droite-gauche, gauche-droite. Ce que j'ai compris, en tout cas, dans le roman de Marina, parce que je ne connaissais absolument pas cette thérapie, c'est de jouer avec un tapotement sur les genoux pour passer de la droite à la gauche.
Je vais vous expliquer.
S'il vous plaît.
Alors, un élément traumatique, comme Marina disait, est mal stocké au niveau du cerveau. Et en général, dans le cerveau, il y a un processus où l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche communiquent de manière fluide. Or, l'élément traumatique, je vous dirais ce que c'est qu'un élément traumatique, est mal stocké et finalement, il n'y a pas cette communication.
Il n'est pas mal stocké, il est planqué volontairement.
Il est trop bien stocké.
En fait, il sait se rappeler à l'individu et lui faire mal tous les jours. Parce qu'il y a des déclencheurs.
Il s'est glissé au milieu, il s'est glissé entre les deux.
On va dire qu'il est un peu mal placé, d'accord. Mais bon. Mais il dit qu'il est quand même là et c'est pour ça qu'il y a des crises d'angoisse, c'est pour ça qu'il y a, il y a du stress, c'est pour ça qu'il y a des phobies, c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de choses qui remontent. Mais Francine Shapiro avait en fait réalisé qu'en faisant des mouvements oculaires, c'est-à-dire qu'on met les doigts au niveau des yeux des personnes,
et on les fait passer
balaye,
de droite à gauche,
ou alors, comme dans l'ouvrage de Marina, où on fait des tapotements sur les genoux, on peut aussi faire des tapotements sur le dos des mains, on peut aussi faire des stimulations auditives oreille droite, oreille gauche, tout simplement parce que ces stimulations qu'on appelle bilatérales, désolé si je suis un peu jargon.
Bilatéral, on pense
ça va. N'allez pas plus loin, mais bilatéral.
Non, mais je me suis un mot de Nagui, c'est pour ça.
Je dépassais pas le syllabe.
Je suis invité de
bas. Elle est géniale, Katia. Attends, c'est drôle. Elle a compris l'esprit.
Je vois pas
si c'est
drôle.
Enfin. Continuez, Katia.
Mais revenons aux choses sérieuses. Donc, ces stimulations bilatérales vont faire venir, si vous voulez, par rapport à un souvenir traumatique, tout un ensemble de choses, de ressentis au niveau de son corps, d'images, d'idées, d'odeurs, qui vont aider à intégrer finalement ce trauma. Et c'est quoi un trauma et comment on intègre un trauma ? Un trauma, c'est une situation où il y a une émotion forte, négative, où parfois il y a du danger, un sentiment de danger, un sentiment de terreur qu'on ne peut pas dépasser, et on se sent seul, et à un moment, on est comme sidéré par la chose. Et ce traumatisme, il peut avoir une très très grande amplitude. C'est pas uniquement un viol, c'est pas uniquement une agression. Ça peut être aussi une sorte de maltraitance familiale qui dure tout au long de toute notre vie, du style « t'es nul, t'y arriveras pas », ce genre de choses que beaucoup ont entendu dans notre enfance, ça peut constituer un élément traumatique.
Non, on est tous en train de se demander autour de la table le truc qui...
C'était ma question d'ailleurs. Est-ce qu'on est obligé de connaître son traumatisme pour le cibler dans une thérapie EMDR ?
Alors, il y a différents cas de figure. Il y a des personnes qui connaissent ces éléments traumatiques. Par exemple, un deuil, qui viennent vous voir en disant « Voilà, j'ai perdu quelqu'un, un membre de ma famille, et je suis hantée plusieurs mois après, comme c'est arrivé. J'ai l'impression que le mort revient me voir, et je suis culpabilisée, etc. » Donc la personne vient avec une demande bien précise. D'autres qui vont dire « Je sais pas. Des fois, le matin, je me lève, j'ai une boule d'angoisse, je sais pas ce que j'ai la nausée, une sorte de mal-être, je sais pas. Et finalement, des fois, j'ai des crises d'angoisse, je sais pas ce qui m'arrive. Dans le métro, tout d'un coup, j'ai une crise de panique, il faut que je sorte. » Bon. Et les gens disent « Mais pourtant, j'ai pas eu de traumatisme quand j'étais enfant. » Et finalement, très souvent, il y a des éléments traumatiques ou des situations traumatiques. Il y a peut-être des fois du déni, de l'amnésie totale ou partielle, parce que c'est un mécanisme de défense. On met de côté pour se protéger. Et finalement, il y a la mémoire du corps. Et c'est ça aussi qui s'active.
Mais pourquoi une stimulation gauche-droite, droite-gauche peut amener à faire ressortir ça ?
Alors,
quel est le mécanisme ?
En fait, si vous voulez, les parties au niveau neuronal, il faut une sorte de fluidité, de plasticité pour pouvoir intégrer tout cela. Et quand les choses sont figées, à un moment... C'est quelque chose qu'on ne peut pas digérer. C'était comme si, j'allais dire, je vais prendre une image.
Oui, s'il vous plaît.
Vous avez un verre d'eau, vous mettez un caillou, qu'on appelle trauma. Essayez de l'avaler. Il va vous rester à travers la gorge. Or, finalement, en travaillant autour de ce caillou, à un moment, on va le désintégrer. Et je dirais, ça passera mieux parce que...
Vous voyez,
j'ai pas droit à la fin de mon histoire.
Écoute, tu prendras ton livre d'images plus tard et tu iras faire des coloriages aussi.
Moi, j'aimerais savoir comment se passe une séance,
Non, alors
on tapote,
ça tu sauras plus tard.
On tapote.
Est-ce que ces traumatismes-là sont uniquement des traumatismes liés à l'enfance ou ce sont aussi des traumatismes qui peuvent être liés à la vie d'adulte ? Est-ce que c'est finalement des choses que l'on se cache, où on se ment, on croit avoir été soigné après un deuil, après une rupture, après une agression, après peut-être un harcèlement moral, mais qui peut avoir lieu lorsque l'on a 20, 30, 35 ans et qui crée un malaise à quelques années après. Ou est-ce que c'est uniquement cet exercice de MDR ne concerne les années, on va dire, avant les 5-6 ans, avant qu'on ait une mémoire suffisamment précise ?
Prenons un exemple, un adulte qui se fait agresser. Eh bien, a tout un ensemble de ressources qui va lui permettre de dépasser cette agression. Ou pas. Parce que, peut-être dans son enfance, ses ressources ne sont pas suffisantes pour dépasser l'élément traumatique.
Donc ça fait toujours appel à l'enfance.
Alors, l'enfance, si vous voulez, les éléments traumatiques de l'enfance sont très forts parce que l'enfant est fragile et vulnérable. Tout au long de notre vie, tout ce que nous allons vivre... Tout ce que l'éducation va nous apporter, toute la sécurité que nos parents vont nous apporter, vont créer des ressources. Ouais, ouais. Et ces ressources vont nous permettre de dépasser ou pas une situation.
Ça marche à tous les coups ?
C'est variable. C'est variable selon les individus. Il y a quelqu'un qui perd son job, il peut faire une dépression. Quelqu'un qui perd son job peut rebondir et redémarrer. Et ça, c'est totalement différent. Et pourtant, bah, je dirais, bah, c'est la même situation. Les deux personnes ont perdu un bien.
C'est pas simplement une question de caractère. Il y a forcément un traumatisme quelque part qui explique.
Non, si vous voulez, dans la notion de traumatisme, c'est aussi peut-être des fois un environnement toxique familial qui relèverait de quelque chose du traumatisme.
Vous imaginez bien que parmi toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, chacun va se poser la question comme autour de cette table en disant « Mais est-ce qu'il y aurait quelque part dans mon enfance des explications de tel ou tel comportement que je pourrais avoir ?» Est-ce que ça veut dire que vous encouragez toute personne ayant des problèmes ou pas ? Parce que là, vous avez évoqué celles qui ont des problèmes en disant « Et si j'allais chercher la source de ce problème ?» Mais y compris celles qui n'en ont pas, à aller faire le tri de ce qui serait caché dans leur mémoire lointaine.
Moi, je pense qu'il faut être vraiment très tolérant. Quand vous êtes, vous estimez que vous avez acquis un certain équilibre de vie, quelles que soient vos blessures, bon ou mal an, vous les compensez. J'allais dire, s'il n'y a pas vraiment de souffrance et de demande, je ne vois pas trop l'intérêt de faire cette démarche. On ne fait pas une démarche comme ça dans l'absolu.
Ouais.
Mais s'il y a une souffrance et quelque chose qui bloque, moi, je dis, mauvaise nouvelle, on a tous des traumas, bonne nouvelle, on peut tous en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que la vie, c'est pas un cul-de-sac. Quel que soit l'héritage qu'on a pu avoir, eh bien, grâce à une thérapie, notamment au MDR, on peut se débarrasser des choses qui nous plombent.
C'est une forme d'hypnose pour rejoindre la question que vous voulez poser, Leïla. Comment ça fonctionne? C'est une forme d'hypnose?
Je suis pas une spécialiste de l'hypnose, mais il y a une grande différence entre l'hypnose, c'est que, en thérapie au MDR, on est vraiment présent. La seule chose qui s'inspire de l'hypnose, ce sont ces balayages et ces tapotements qui vont faire qu'à un moment, on est dans une sorte de travail un petit peu d'association libre, un petit peu...
Ne penser à rien, n'écouter que ma voix.
Non, on pense à beaucoup de choses, on fait beaucoup d'associations.
Juste, pour finir, comment éviter les charlatans?
Voilà.
Bah, des charlatans, il y en a partout.
C'est la question déjà autour de cette table,
C'est la question que je voulais poser, parce qu'il peut y avoir des interprétations abusives et des gens se créer, fantasmer un traumatisme qui n'a pas existé.
C'est ça.
On a vu quelques exemples de personnes célèbres.
Si vous voulez, il y a le charlatan, thérapeute ou pas, donc déjà première partie. Déjà, pour être thérapeute EMDR, il faut être psychologue ou médecin et avoir suivi une formation de EMDR France qui accrédite les thérapeutes.
Marina?
Oui, juste pour... vous me contredirez si j'ai des bêtises, mais sur cette histoire de faux souvenirs qui est très intéressante, justement, le MDR, et c'est pour ça que ça a été reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé, ne peut pas créer des faux souvenirs, parce que, comme vous l'avez dit, c'est le corps qui parle.
D'accord.
C'est le corps qui s'exprime et qui revit le traumatisme. Et le corps ne sait pas mentir.
C'est pour ça, d'ailleurs, que vous allez... c'est presque du prosélytisme que vous faites, Marina. À la fin de votre livre, vous mettez l'adresse de MDR...
Parce que je ne suis pas une spécialiste, et que si les gens veulent en savoir plus et veulent surtout avoir des spécialistes, des analyses de spécialistes, il faut aller sur ce site.
emdr-france.org pour avoir des nouvelles. Je ne sais pas si là sont recensés ceux qui ne sont pas des charlatans, justement. C'est-à-dire qu'il y a un répertoire, l'annuaire de ceux qui, chez qui on peut se tourner.
L'annuaire des gens qui ont été formés, accrédités. Il y a un processus de suivi de la qualité de la thérapie.
Qui a inventé tout ça, d'ailleurs?
Francine Shapiro, une psychologue américaine, dans les années 80.
Très bien.
Voilà. Le verre d'eau, il est rempli comment?
Le gravier vient d'où? Merci Katia Caron-Hall, thérapeute EMDR, membre de l'association EMDR France. Merci mille fois et pour votre patience et pour vos explications. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure à midi 10. Tanguy.
Bonjour Nagui, bonjour à tous.
Alors ça ne va pas être très gai, vous me parlez de menaces de mort.
Mais oui, puisque Charlie Hebdo en reçoit plein pour avoir caricaturé Tariq Ramadan, l'islamologue qui a le slip en feu. Nadia Dame, chroniqueuse sur Europe, en a reçu pour avoir parlé de type d'un forum sur Internet. Et quand une youtubeuse fait un truc sur le féminisme, on lui écrit qu'on va la violer. Internet, c'est devenu delatourette.com.
Fais gaffe, vous allez avoir des menaces aussi avec des fans comme ça.
C'est le risque.
Tanguy Pastureau, ça sera tout à l'heure à midi 10. Pour l'instant, une cascade de questions pour Marina Carrère-Dancos, qui signe, je le rappelle, une femme entre deux mondes chez Anne Carrière. Des questions courtes avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Marina. Leïla, la première.
Marina, avec qui aimeriez-vous avoir une relation épistolaire?
Avec mon frère.
Très bon.
Daniel, moi.
Marina.
Là, je crains le pire.
Mais non, pas du tout. Vous êtes lumineuse, donc j'aurais voulu savoir quel est votre geste beauté du matin.
Je bois un verre de citron froid. Du jus de citron, c'est tout. J'en ai pas beaucoup d'autres.
D'accord,
Albert, le goût.
Vous avez un remède contre la peur des piqûres? Moi, j'ai très peur des piqûres.
Oui, je me suis fait moi-même des piqûres et ça guérit de la peur.
Ok. Ouais.
Guillermo, vous êtes hypochondriaque, est-ce que c'est pas plus facile quand on est médecin que quand on est...
Non, je suis pas hypochondriaque, je suis cancérophobe. Et c'est pas plus facile, non.
Tous les lundis, elle s'invente un nouveau cancer.
Ouais. Ah, j'ai
voilà, ça tombe bien, on est mardi. on est peinard. Marina Karabanko, c'est notre invitée jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoumou David.
Bonjour à tous.
Tanguy Passureau.
Bonjour.
Léa Mouguiz.
Oh, absolument.
Et Laura Albergou. Avec notre invité Marina Carrère-Danco. Marina. Marina qui signe dans la douleur, donc, on l'a appris tout à l'heure.
Sans savoir ce que ses mains vont écrire.
Une femme entre deux mondes chez Anne Caria. À partir de quel moment vous avez pris du plaisir? Puisque vous nous avez dit que vous n'écriviez jamais dans le plaisir. Est-ce que c'est le moment des premières critiques,
des rencontres avec les lecteurs,
personnes comme nous, d'ailleurs, quand on vous accueille avec bienveillance.
Des chaleurs.
Grande bienveillance.
Non, mais.
Non, parce qu'on a aimé, sincèrement.
Oui, parce qu'on est sincère, oui.
Non, c'est effectivement à partir du moment où il y a des échanges avec les lecteurs, les critiques. Oui, bien sûr, c'est là où ça devient. Où je me dis, bon, ça parle à d'autres gens, donc c'est intéressant.
Et alors, la présence des enfants, parce que tout à l'heure, je l'ai dit, on a beaucoup parlé de cette femme qui est en prison, on ne sait pas pour quelle peine, mais en tout cas, elle y est pour. Ça se compte en dizaines d'années, je crois.
20 ans, je crois.
La peine de prison dont elle écope. Et vous êtes romancière à succès. Mais aussi journaliste, enfin du moins l'héroïne Valérie est romancière à succès, également journaliste, en quête d'un nouvel amour avec cet Olivier, et elle va faire son tout un travail pour savoir si oui ou non c'est l'homme de sa vie. Mais les enfants, alors eux sont une espèce de baromètre de l'humeur et de ce qu'il faut faire au bon moment. Malgré leur jeune âge, parce que dans le livre, ils sont de jeunes ados.
Alors comme par hasard, ils ressemblent beaucoup aux miens. Je vous le confirme. Non, mais c'est vrai. Je m'en suis largement inspirée pour parler de ces enfants qui sont, qui m'étonnent chaque jour par leur, les miens, hein, par leur intelligence et leur sensibilité et leur tolérance et par leur bienveillance. J'ai des compagnons de vie absolument délicieux que sont mes enfants.
Vous appelez ça des compagnons de vie,
oui,
c'est joli.
Oui, ils sont des compagnons de vie. Mais ils sont grands maintenant, donc c'est des vrais compagnons de vie. Et voilà, ils m'apportent énormément et je me suis beaucoup inspirée d'eux en écrivant ce livre. Et j'ai eu du coup quelques remarques sur le fait que comme il n'y en a que deux, lequel n'est pas dans le roman.
Ah, ouais. Mais non, mais les deux sont une concentrée des trois.
C'est enfin, j'aurais dû trouver ça.
Ben oui.
Voilà, non, mais évidemment. C'est vrai. C'est...
Évidemment. Et l'écriture, alors comment qualifierez-vous votre écriture? Moi, je l'ai trouvée extrêmement fluide, agréable.
J'écris des images, lire. Moi, je vois des images et j'écris à partir de ça. Je vois des scènes et je les écris, je les mets en mots.
Moi, je dirais que c'est une écriture sensorielle, en fait, parce que au-delà du style de la plume, déjà, on se fait embarquer par l'histoire et ça, c'est toujours bien. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai senti, c'est une sensibilité, en fait. C'est ça. Moi, ce qui m'a permis de tourner les pages, de découvrir la suite, c'est ce côté un peu à fleur de peau, ce côté je me livre. Il y a quelque chose de très impudique, je crois, dans l'écriture, quelque part, même si on se cache derrière un personnage et qu'on est finalement l'auteur. Mais c'est ce qui me touche, en fait, dans vos écrits, dans vos deux livres. C'était ça. C'est ce côté, je sens que c'est une sensibilité qui me parle, mais une sensibilité exacerbée même parfois.
Oui, ça,
oui mais contrôlée. Moi, c'est la montée de l'émotion. C'est Albert, la montée de l'émotion. C'est le crescendo, justement. C'est l'intensité croissante du récit, de l'intrigue et donc du suspense, le côté, oui, policier aussi. Et
oui,
puis, la lutte entre l'introspection, la contradiction, l'introspection de cette femme.
Mais vous avez totalement psychopathe.
En même temps, ce qui est bien, c'est qu'on a les deux points de vue et que c'est exactement le condensé des deux. C'est-à-dire la sensibilité et la dramaturgie ou le suspense, appelons ça comme on veut, se retrouvent liés, mais sans effet non plus d'exagération, sans vouloir chercher à emmener le lecteur sur une mauvaise piste pour dire après, ah, je t'ai bien eu, ainsi de suite.
On n'est jamais dans le pathos aussi, jamais.
Voilà. Ça marcherait aussi avec une intrigue, une vie simple. C'est-à-dire, je pense que ça marcherait sans blessure. Là, on va relever tout ce qui est le crescendo, la dramaturgie, le côté un peu policier, oui. Mais pour moi,
le crescendo, c'est le style aussi. Hein.
Ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose du côté de ce qu'on dit de soi dans la façon dont on écrit.
Mais je ne voulais pas, honnêtement, quand j'ai commencé... avoir une telle dramaturgie, honnêtement. Et c'est vrai que c'est mes personnages qui m'ont emporté. Donc, dans la mesure où je ne maîtrise pas totalement ce que j'écris, je ne peux pas dire que je saurais faire une histoire simple.
Ouais.
Je pense que même en faisant une histoire simple, il y aura une dramaturgie quelque part.
Ouais.
On va en reparler encore de ce roman, Une femme entre deux mondes, avec Marina Karabanko, qui est notre invitée. Mais à midi 10, c'est le rendez-vous de l'information maltraitée par Tanguy Passureau. Tanguy, vous le savez, puisque vous faites des clins d'œil à la caméra, Internet, c'est formidable.
Oui. Oui, Internet, c'est super. On peut, par exemple, nous voir en vidéo live voilà. et fantasmer sur le physique de Guillermo Guise, le seul avec Nicolas Sirkis d'Indochine à faire le tiers de son âge. Mais aussi taper Nagui nu. Je l'ai fait, on tombe sur une photo du Téléthon 2010 où vous êtes à poil avec Louis Laforge,
torsenu.
Le mec à la grosse enclume.
Torsenu.
L'intimité masquée tous les deux par le compteur de dons.
Voilà.
Vous aviez dit cette année-là, si on dépasse les 90 millions d'euros, promis, je finis à poil. C'est mollement monté à 5 millions. Donc vous avez dit, mais en plus, Georges Pernoud lui restera habillé. Il a montré à Cédré en 40 ans de Thalassa. Et la pape direct, 90 millions. Mais Internet, c'est aussi un immense défouloir pour Anonyme Vénère, qui H24 rédige des commentaires comme « Va crever en flure, tu mérites de mourir pourri » ou, s'il s'agit de la page Facebook avec mes chroniques, « Quel bon moment de rire, vous êtes culte, merci Tanguy, à quand le One Man Show ?» Les menaces de mort sur le net, c'est devenu aussi courant que la chaude pisse en première année d'Erasmus. Charlie Hebdo en reçoit par pelleté depuis qu'ils ont mis en une Tariq Ramadan avec le rouleau de l'épreuve des rouleaux de Fort Boyard dans le slip. Le type est chaud comme une calzone qui sort du four, donc c'est drôle. Hein, et puis on peut rire de tout normalement en France. Sur 193 pays à l'ONU, il y en a 140 où on peut rire de rien. Donc si on n'est pas joyeux, on peut acheter le petit futé Kaboul ou le guide Michelin de la Chine, et se casser là-bas. Adios les tristus. Autre exemple, la semaine dernière sur Europe 1, une radio moindre qui s'est ruinée sur 70 ans en se faisant comme cadeau Patrick Cohen. Ils auraient mieux fait de prendre une smartbox.
Non,
Nadia Dame, chroniqueuse, fait un papier parlant du forum 18-25 ans de jeuxvideo.com, un site de geek qui se triture le joystick. 18-25 ans, on se dit les mecs sont mûrs. À un stage là, Macron avait déjà formulé son désir de devenir ministre, puis président, puis dieu et enfin entité cosmique. À 18 piges au Pakistan, on a déjà 14 ans de carrière dans le secteur du textile. Mais pas du tout. Les gens sur le forum ont le même second degré que Moundir l'aventurier si quelqu'un le traitait d'amoureux des lettres. Nadia Dame a reçu des menaces de viol, de mort, enfin la totale. Tout ça fait bien sûr par des zics sous pseudo. Hein, Kiki 92, Michael The Best 14, Paquito, Mimi la souris. Hein, c'est comme si en 84 on avait lâché tout un groupe de cibistes en R12 sur elle.
C'est violent ça. Bon, oui. Comment réagit l'éditeur du site de jeuxvideo.com? Parce que c'est j'imagine qu'il se...
Comment elle a fini cette phrase?
Non, elle est pas je cherchais le mot. Non, parce qu'il héberge le
jeu. Ouais.
Ouais, et puis ça ne met pas en cause tous les joueurs de jeux vidéo.
Absolument. Et bien, ils ont embauché 6 modérateurs de plus. Hein. Ils sont 12 qui, toute la journée, lisent des trucs comme « il faut tuer celle-ci, on va trucider telle autre ». Le soir, chez eux, au dîner, si leur copine prend un couteau pour découper une tranche de museau, ils se mettent à hurler « non, me tue pas, bébé, je te promets, j'ai pas fait de chronique. Il y avait plus de place chez Nagui, c'est Pastureau qui a pris le chèque ». Sinon, Marion Séclin, une youtubeuse, hein, ces gens qui sont filmés comme nous mais qui eux se font du blé avec leurs vidéos. Moi je connaissais pas, j'en suis resté Arlette Chabot, dit dans un documentaire sur le cyberharcèlement avoir reçu 40 000 messages de haine, plus que Pierre Gattaz s'il se rendait sur le stand d'attaque à la fête de l'UMA. Tout ça parce qu'elle a fait une vidéo sur le féminisme. Hein, là aussi on se dit, bon ça fait 40 ans que les femmes brûlaient leurs soutifs, à part le PDG d'Etam Lingerie tout le monde devrait avoir digéré le truc. Mais pas du tout, la petite a publié un panel des messages reçus, donc il y a « Je vais te violer », le gars était derrière son ordi, donc c'est l'unité centrale qui a pris. Hein. Il s'est introduit dans le lecteur CD-ROM, le truc s'est refermé, quand les pompiers sont arrivés, il était circoncis. Dans 13 ans, il fait sa bar mitzvah. Un autre homme a écrit à Marion, c'est véridique, « Va sucer un taureau, un mélange de L'amour est dans le pré et de Marc Dorcel ». Et je vous lis pas les autres parce que c'est délirant de violence. L'écran du PC, c'est comme la bagnole, ça rend les mecs totalement fous. Donc si Anne Hidalgo, après nous avoir tous refourgué un big clou crevé, peut couper la fibre hein, comme Kim Jong-un et rebrancher le Minitel, ce serait super. Un 36-15 ULA, personne ne l'a traité de catin. Et pourtant, c'était chaud. Hein. Enfin, on m'a dit ça. L'époque, sans doute, a changé. Même Christophe Beaugrand a reçu des menaces de mort après avoir critiqué Camilla et Noré, deux crétins qui font Secret Story, pléonasme. Donc, vous voyez que c'est pas une affaire de contenu. En fait, dès qu'on plaisante à propos de quelqu'un, on reçoit 1000 « je vais te tuer », 700 « tu vas te prendre une balle », 450 « on va te violer » et 1 « c'est maman ». Sache que moi, j'ai bien aimé ta chronique. Donc moi, qui ai envie de messages d'amour, je le dis, vive Tariq Ramadan, vive
non.
l'ensemble des participants du Forum 18-25,
non.
vive Camilla, vive Noré, et puis non, c'est pas à nous de changer, c'est à eux. Donc qu'ils aillent tous se faire foutre.
Voilà.
Merci. La bande originale, Nagui.
sur France Inter.
Marina Carrard-Encausse, parlons un peu d'amour aussi dans ce monde de brut, puisque votre livre, c'est aussi une histoire d'amour. Volontairement, je voulais qu'on en parle le plus tard possible, parce que trop de personnes ramènent ce lien entre ces deux femmes à une histoire d'amour entre deux femmes. Ça finit par une histoire d'amour, mais ce sont des beaux sentiments qui se révèlent l'une à l'autre. C'est peut-être même encore plus fort qu'une histoire d'amour.
Oui, c'est plus fort parce que c'est une histoire d'abord de désespérance qui se rencontre, une histoire de souffrance qui se rencontre, une histoire de compréhension mutuelle. Et je pense que la tendresse et le désir qui se met sur cette histoire est lié d'abord, je pense, à l'impossibilité que cette histoire existe. Parce que je suis pas sûre que ça aurait été possible si cette femme n'était pas enfermée. Et lié aussi au fait, sûrement, que cette femme, Valérie, se dit que le danger vient quand même dans ses histoires à elle d'hommes, et qu'une femme, du coup, n'est que douceur et pas danger. Je pense qu'il y a cette histoire-là qui existe.
Oui, et surtout, il y a un moment crucial dans le roman où elle ne sait pas à qui parler des problèmes qu'elle a, de ce qu'elle ressent, de ses blessures, et qu'elle va vers une inconnue, celle qui ne va pas la juger, justement, contrairement à ce que sa mère aurait pu faire, ses enfants ou ses amis.
Aucune des deux, d'ailleurs, ne juge, puisque c'est pour ça qu'au départ, elle ne sait pas pourquoi. Et pendant la majorité du livre, elle ne sait pas pourquoi elle est enfermée, justement pour ne pas juger, pour que ça n'entrave pas sa relation avec cette femme.
Moi, je trouve
qui
que
paye
ça,
de toute façon.
Ouais, moi, je trouve que ça questionne l'amour, en fait. Au-delà de l'enfermement, c'est l'idée qu'on tombe amoureux d'une personne, et pas d'un genre, et pas d'un sexe, et pas d'une situation, en fait. Et que c'est, finalement, si on entendait tous ça, on serait sans doute beaucoup plus tolérant. Et on ne se dirait pas, non, moi, de toute façon, jamais de la vie, je serai hétéro toute ma vie. La question, elle n'est pas là. La question est de dire. Mais non, mais non, mais moi, je suis vraiment très, très personnellement, je suis complètement convaincue de ça, de dire que se définir par une orientation sexuelle, je trouve ça complètement ridicule. Même si à la fin de ta vie, tu n'as eu des histoires amoureuses qu'avec des hommes, t'es pas à l'abri de rencontrer un jour une femme qui va te faire dire que c'est elle et c'est maintenant.
Oui, c'est le message d'ailleurs de ses enfants qui sont. Simplement dans le fait que l'amour existe. Et puis je pense que effectivement ensuite il y a les histoires de sexualité, mais je pense qu'il y a des histoires rencontres avec des femmes qui sont largement aussi fortes qu'une rencontre sexuée avec un homme.
Il y a plein de choses qui existent justement. Elle est en prison, donc il n'y a pas de rapport sexuel possible, et c'est l'amour sublimé.
Il y a du désir malgré tout qui existe, et qui est effectivement comme disent les enfants, qui n'est pas le problème. Enfin, c'est que ça soit un homme ou une femme. C'est simplement une rencontre incroyable.
Vous parlez de désir. Je vais vous répondre, Daniel Morin. Je ne sais pas comment se faire.
Je comprends.
Ça tombe sous le sens.
Oui, merci. Voilà.
Vas-y, Daniel Morin, sur un terre.
Bon, vous l'avez sans doute remarqué, les forains ne sont pas contents.
Oui, ça roule mal à Paris.
Et quand c'est pas content, un forain, ça se voit. Anne Hidalgo ne veut plus du marché de Noël sur les Champs-Élysées. Les forains décident de bloquer la circulation en région parisienne. Une info qui, émotionnellement, m'a quelque peu blackboulé. D'un côté, j'étais furieux que le trafic soit perturbé. De l'autre, j'avais ce relent de tendresse pour une population foraine, synonyme pour moi de foire du trône et autres fêtes à neuneux. Et moi, quand je suis blackboulé, ça me donne chaud. Et quand j'ai chaud, j'ai sommeil. Quand j'ai sommeil, je m'allonge. Quand je m'allonge, je m'assoupis. Et quand je m'assoupis, je m'endors. Et quand je m'endors,
je rêve.
Dans mon rêve, j'étais dans ma voiture, en train de rouler tranquille, la clope au bec, un calva dans la main gauche.
C'est le mois sans tabac, je te rappelle.
Rien à foutre. Quand d'un seul coup, un camion me double, me fait une queue de poisson et me bloque le passage. Mais bordel de Dieu, c'est qui ce con qui me bloque la route comme ça? N'ayez pas peur, approchez, venez faire un tour là-bas dans le camion manège, les amis. Le manège, c'est drôle pour les grands, c'est drôle pour les petits. Allez, on y va, on donne ce qu'on veut, c'est pour soutenir le mouvement de colère des forains contre la mairie de Paris. Génial. J'ai fait 4 tours, je me suis amusé comme un fou, puis je suis remonté dans ma voiture. 20 minutes plus tard, je m'éclatais au volant en écoutant chanter Amir. Oh, je dégustais un délicieux Ricard. Oui, j'avais plus de calva, j'avais fini la bouteille. Ah bah Amir, quand t'es pas bourré, c'est naze. Bref, j'étais heureux. Quand d'un seul coup, merde, c'est quoi encore ce camion à la con?
Oui, oui. venez, venez, approchez, n'ayez pas peur. Venez dans mon camion goûter mes délicieuses barbes à papa. Il y en a la fraise, il y en a la pomme, il y en a la pastèque, il y en a la banane, il y en a au kiwi, il y en a, il y en a, il y en a même au cookie. On donne ce qu'on veut, c'est pour soutenir le mouvement des gens différents, rigolos, qui détestent Hidalgo.
Oh la vache, elles étaient bonnes ces barbes à papa, je me suis régalé, j'en ai bouffé 17. Une fois m'être sucé les doigts, j'ai repris la route. Ma réserve de Ricard épuisée, elle aussi, j'avais attaqué mon cubi de Malibu tout en écoutant l'excellent Clodo Capéo. Ah bah lui, c'était pas mort bourré, c'est insupportable. Ouais, bref, je m'éclatais sur la route, quand sorti de nulle part, oh là là là, oh le con, j'ai failli me le faire cet abruti de camion.
Approchez, approchez, venez tenter votre chance au camion stand de tir. Au stand de tir du maréchal, pas de triche, c'est génial. On tire pas sur des cibles, on tire sur des employés de la mairie de Paris. Allez, allez, on approche, on s'amuse et on donne ce qu'on veut. C'est pour soutenir les forains qui ont en plein le dos de la mairie d'Algo.
Bordel, c'était trop fort le stand de tir sur cible vivante. Sans forcer, j'ai tué 3 personnes, un balayeur et 2 crétins en vélib. Quelle bonne idée cette attraction. Encore tout excité par mes performances, je poursuis ma route. J'étais bien, bon Dieu, mais bien, tellement bien que je conduisais maintenant à poil, les fenêtres ouvertes, tout en buvant à la paille mon tonneau de schnaps. Et moi, quand je bois du schnaps, j'écoute de la grande musique. Oh, ce que c'est bon, oh là 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 là. Ça me donne envie de devenir nationaliste autrichien. Nom de Dieu, voilà. Et pas là, pas le temps de savourer que ça recommence. Mais c'est quoi ce machin? C'est même pas un vrai camion.
Venez, venez les enfants, n'ayez pas peur, entrez dans ma camionnette. Elle est belle, elle est confortable ma camionnette. Une camionnette qui fait train fantôme, auto-tamponneuse, gravite, sauna, backroom, massage, épilation et pomme d'amour. Approchez, approchez et donnez ce que vous voulez, c'est pour soutenir la colère des forains. Oh oui, soutenez les forains, ces hommes forts, ces hommes musclés, ces hommes puissants, le torse plein de cambouis, ces hommes qui dressent des mâts rigides, ces hommes qui montent des chapiteaux et des manèges à main nue avant de les démonter un grand coup de gourdin. Oui, oui, donnez, donnez tout ce que vous avez pour les forains.
Ben, je vois vous...
C'est quoi, les forains?
Oui, les forains. Oh, les forains.
C'est sorti de loin.
Même lui, il s'est surpris.
Ah, ouais.
Et là, vous comprendrez pourquoi j'ai eu un petit peu peur. Je n'ai pas été dans la camionnette du gars. Trop d'activité. J'avais peur de vomir mon schnapps. À demain.
Merci d'être moral.
Avec Nagui.
Marina Carabanco, je voudrais parler un tout petit peu de d'autres activités au-delà de ce roman dont nous avons souligné la qualité. Il y a évidemment à la télévision avec Michel Simès et Benoît Thévenet le magazine de la santé du lundi au vendredi à 13h40 sur France 5. Il y a Allô Docteur à 14h40. Il y a Enquête de santé également en première partie de soirée sur France 5. Il y a Le Monde en face aussi sur France 5 où vous faites remplacer de temps en temps. Vous essayez de les faire tous
Non, je les fais tous. Ah oui. D'accord. Et c'est génial, et c'est vraiment génial, vraiment bravo pour cette émission.
Parce que ça fait énormément, je ne sais pas comment vous arrivez à tout faire, parce qu'il y a aussi le travail de journalisme à côté de ça, les magazines, les sites internet, et puis vous êtes marraine aussi pour la Fondation pour la Recherche Médicale, ça fait beaucoup, et vous devez être extrêmement sollicité aussi par...
Oui, alors j'accepte beaucoup, beaucoup ce qui est humanitaire, causes qui me tiennent à cœur. J'accepte moins... J'ai rien de mondain, quoi. Je vais à aucun dîner, aucun truc de représentation, tout ça, je fais jamais. Mais je fais voilà ce qui me tient à cœur et ce qui peut faire que je puisse servir un tout petit peu des causes importantes.
Et même le dimanche ou le samedi, parce que récemment, à la Fondation Good Planet de notre ami Yann Arthus-Bertrand, vous êtes intervenu pour parler de l'autisme, vision de l'autisme dans les médias, c'était formidable. Et un petit clin d'œil à notre ami Yann Arthus-Bertrand.
Et Olivia Catan, effectivement, voilà, qui dirige. Mais oui, bien sûr, voilà, ça fait partie des choses que j'accepte parce que c'est important et que je peux quand même donner de mon temps pour ça. Mais sinon, non, mais j'essaie de caser tout dans ma journée en sachant que je suis paresseuse et que j'aime dormir.
Vous êtes paresseuse, vous aimez dormir. Oui. Il y a bien un moment où vous allez vous rendre compte des qualités humaines que vous transmettez, que vous véhiculez, sans vous dire je suis une usurpatrice, je ne suis pas celle que vous croyez que je suis, ça va s'arrêter quand même un jour, ça.
J'y travaille.
Parlez-nous de vos angoisses.
Non, mais c'est peut-être un moteur aussi. Ça a plus été une souffrance qu'un moteur pendant toutes ces années, mais c'est vrai que honnêtement, la façon dont mes deux romans ont été reçus, enfin le deuxième commence à être reçu, est quelque chose qui me rassure un tout petit peu. Mm-hmm.
Voilà, parce que c'est quelque chose que je fais toute seule, qui ne tient qu'à moi. Et voilà, et comme Alors ça se passe plutôt bien, c'est rassurant.
Tout le reste est un travail d'équipe, mais enfin, c'est quand même vous qui le portez, c'est vous le vecteur. Et,
oui, mais c'est parce
vous,
que
le travail. Détruire aussi le travail d'équipe. On connaît des équipes qui travaillent très très bien pour des gens qui ne sont pas bons.
Ah, ça, on en connaît.
Non, mais les équipes que j'ai, je ne peux pas détruire, franchement, ce qu'ils font. Ils font du trop, trop beau boulot.
Ça vous angoisse d'en parler?
Je ne suis pas sûre que je vais venir vous voir, vous.
Dans les années qui viennent, s'il y avait une activité à retenir, vous pensez que c'est l'écriture qui finalement catalyserait comme ça toutes les énergies et vos envies?
Oui, je pense qu'un jour je ne ferai plus que ça, parce que j'en ai vraiment envie, parce qu'il y a plein de gens que j'ai envie d'explorer, il y a plein de choses que j'ai envie d'écrire. Mais tant que je peux avoir ce contact quotidien avec à la fois le téléspectateur, mais en même temps avec des patients sur le plateau, avec des témoins voilà, qui me touchent et à qui dont j'ai envie d'entendre et de faire partager la parole, ça je continuerai, oui. C'est un vrai cadeau.
Et c'est une vraie responsabilité aussi, parce qu'il y a des gens qui s'en remettent aussi à vos jugements. C'est le problème. C'est pas une consultation en direct que vous faites, mais enfin, vous donnez quand même des conseils qui sont très précis et qui peuvent rendre certaines personnes hypochondriaques. Vous vous rendez compte aussi?
Oui, ça c'est pas grave. Ce qui me ferait le plus de mal,
c'est quelqu'un passe à côté de quelque chose.
Non, c'est surtout de blesser quelqu'un, c'est de faire du mal à quelqu'un.
Bien sûr.
Voilà, en ne mesurant pas mes propos, en ne faisant pas attention à ce que je dis, et que quelqu'un puisse être blessé, c'est ça qui me dérangerait le plus.
Marina Karadankos, Une femme entre deux mondes, ce roman que nous avons apprécié et vous allez en faire autant, c'est aux éditions Anne Carrière. Des excuses à présenter, Daniel.
Non, désolé pour Michel Simès qui, on l'a vu ce matin, a travaillé au quotidien avec une femme bien plus sensible, bien plus cultivée, bien plus intelligente que lui. C'est un peu comme Nagui avec Leïla, tous les jours. Courage, Michel. Alors, désolé pour Marina, cette fois, on l'a vu ce matin, travailler au quotidien avec un homme beaucoup moins brillant, moins pertinent, moins rassurant. Un peu comme Leïla avec Nagui, en fait. Pour tout résumer, courage, Marina. Désolé pour Nagui, oui, c'est la moindre des choses. Hein, Nagui qui, non seulement ce matin, s'est fait insulter par notre invité spécialiste, mais qui, en plus, a appris de force un 121e mot. Cerveau. Hey, c'est comme ça, ça arrive tous les jours.
Merci Daniel Morel.
Je vous en prie.
Et faire de la radio, tiens, comme Michel Simès.
J'adorerais.
Mais vous avez déjà exercé.
J'ai fait des chroniques, mais on m'a jamais. J'aimerais bien faire une émission.
Mais vous aurez le temps de faire de la radio?
Ben, ça sera à la place d'autre chose. Non, j'ai pas cumulé.
L'émission de télévision est faite pour durer. Il n'y a pas de. On parle souvent de mercato pour plein de stars de la télé. Vous en êtes une aux côtés de Michel Simès. Dieu sait si ça me fait du mal de le dire, mais pour Michel. Mais on vous imagine pas quitter l'émission pour aller faire autre chose.
Ben non, moi j'ai pris le défi. Enfin, j'ai accepté le défi de faire en plus Le Monde en Face, qui n'était pas mon domaine de prédilection, et ça fonctionne. Ça me suffit tout à fait, et je suis très heureuse avec ces deux émissions. Et pour l'instant, la chaîne a la gentillesse de bien vouloir nous garder à l'antenne, donc on est ravis, on continue.
Mais on parle de vous pour remplacer Patrick Sébastien dans les années bonnes.
Non, c'était pas ça ma question, mais t'as vu la malice?
C'est pas ça.
Je lui parle de Mercato, elle dit, mais tout va bien avec la chaîne. Oui, mais est-ce que d'autres chaînes, que ce soit TF1, M6, des chaînes de TNT, vous ont contacté, vous proposent des choses?
Oui, déjà, oui, mais j'ai pas envie, je suis bien là. Je suis heureuse, je suis bien, je pense que je suis à peu près utile à faire ce que je fais. Je suis absolument pas carriériste, moi.
Ça vous angoisse d'en parler?
Non, mais je suis pas carriériste, donc j'ai pas envie de...
Non, mais
de
vous pourriez être utile ailleurs, de la même façon ailleurs.
Ben, oui, mais comme je suis bien là et que je suis en tout cas très bien sur le service public, ça c'est un truc clair, ça correspond à ce que j'ai envie de faire.
Et si on vous propose une exposition plus grande encore, qui pourrait permettre à plus de gens de vous voir et donc de faire davantage de bien autour de vous?
Pour l'instant, honnêtement, je suis bien là.
On ne change rien. Marina Karadankos, Une femme entre deux mondes. Merci Marina d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro. Demain, les frères Fuenquinos, David et Stéphane, pour un très bon film qui s'appelle Jalouse.
Fuenquinos.
Tu dis quoi?
On dit pas Fuenquinos?
Fun?
Fuenquinos.
Moi, je dis Fuen.
Oui, mais je sais, mais
on verra demain.
Ah, bah, si on leur demandait.
Si on leur demandait demain.
On va leur demander.
Oh, j'ose pas. Avec Karine Viard, en tout cas, ce film porté par Karine Viard qui s'appelle Jalouse. Ça sera demain.